Bonjour et bienvenue dans La Fosse Éclair. Plus d'un million de manifestants hier en France et des violences à Rennes, Nantes, Bordeaux ainsi qu'à Paris. L'intervention d'Emmanuel Macron mercredi n'a pas réussi à apaiser les tensions. Au contraire, La Fosse Éclair est intitulé « Regain de mobilisation et de violence ». Nos invités, Christelle Craplet, vous êtes directrice du département opinion de l'Institut BVA, Jeff Wittenberg, journaliste au service politique de France Télévisions, et Jean Garrigue, historien, président du comité d'histoire parlementaire et politique. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Élysée contre Matignon de 58 à nos jours, c'est chez Talendier. Merci de participer à cette émission en direct. Jamais il n'y avait eu autant de manifestants à Paris. Alors la police en a compté 119 000, la CGT 800 000. Mais le défilé parisien a été émaillé d'incidents. 1500 Black Blocs étaient présents. Débordements également à Strasbourg, Rennes, Nantes, Lorient. Le commissariat a été pris d'assaut. Retour sur cette journée de violence hier avec Diane Schlinger et Océane Labalette.
Une charge. Des interpellations. Policiers et manifestants à terre. Des images qui résument une journée de tension où les forces de l'ordre ont été dépassées à de nombreuses reprises. Comme ici à Paris. Obligés de reculer face à des jets de pierre. Dans une rue voisine, tirs de projectiles sur des policiers. L'un d'eux s'écroule, traîné sur plusieurs mètres par ses collègues pour être mis à l'abri. Il est pris en charge par les pompiers, hospitalisé en urgence relative. Les forces de l'ordre répliquent. Les face-à-face se transforment parfois en mêlées confuses. Les coups de matraque pleuvent. Certains manifestants fuient comme ils peuvent. Plus loin, des individus montent des barricades, tentent d'enfoncer la vitrine de ce fast-food. Ce kiosque aussi est éventré. Le propriétaire est abasourdi.
Je ne comprends pas ça. Ça, ce n'est pas manifestation contre 49 ou quoi. Ça, c'est violence, c'est juste c'est sauvage.
On va passer en force, c'est nous aussi. On va passer en force.
Ce slogan à Strasbourg donne le ton de la journée. Des tensions perceptibles dans de nombreuses villes en France, comme ici à Rennes. Des poubelles, du mobilier urbain incendié. Les manifestants sont dispersés à coups de canons à eau et de gaz lacrymogène. À Nantes, en marge du cortège, quelques dizaines d'individus rentrent de force dans le tribunal administratif. Des symboles de l'État visés, comme ici à Lorient, un feu allumé devant le commissariat finit par atteindre le bâtiment. Il y a des blessés de part et d'autre. Cette jeune femme à Rouen est grièvement touchée à la main après un tir de grenade lacrymogène.
Jeff Wittenberg, ce sont des images qu'on n'avait pas vues lors des 8 premières journées de mobilisation. Clairement, cette 9e journée de contestation marque un tournant. Et qu'est-ce qui a changé ?
C'est malheureux à dire peut-être, mais c'est l'intervention du président de la République avant-hier qui, pour reprendre l'expression de Philippe Martinez, n'a pas jeté de l'huile, mais c'est Philippe Martinez qui le dit, mais un bidon d'essence sur un feu qui est en train de couver. Ce qu'on a observé hier, il faut quand même donner les chiffres, c'est plus de 400 policiers blessés, un certain nombre de manifestants également, et comme vous l'avez dit, une véritable bascule dans les actions, non seulement plus de monde, mais beaucoup plus de violence, avec finalement une partie de la foule qui n'est plus, enfin, il y a les Black Blocs, mais il y a beaucoup de jeunes aussi qui sont dans ces manifestations. Il n'est plus question de 49-3, il n'est plus question de retraite, il est question de casser les institutions, de s'en prendre, on le voit, au bâtiment public. Emmanuel Macron disait en privé, en marge de l'interview de mercredi, qu'il était préoccupé mais pas inquiet. Je pense qu'après les images qu'il a vues et le bilan qu'on a et qu'on pourrait encore avoir ce week-end, ne soyons pas des Cassandres, mais il faut quand même être vigilant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une véritable inquiétude chez lui et dans son entourage, en tout cas, c'est certain.
Jean Garrigue, sait-on qui sont ces fauteurs de troubles qu'on ne voyait pas lors des premières journées de manifestation? On voit des jeunes, notamment, dans les manifestations spontanées ces derniers jours, parfois même des lycéens qui se retrouvent sur les réseaux sociaux après le lycée.
Bon, il est certain que ça n'est plus du tout la même population qui manifestait il y a encore quelques semaines, encadrée par les syndicats. Il y a, alors, Il y avait eu quelques débordements, des black blocs de ci, de là, mais tout ça était contrôlé par les forces de l'ordre. Là, on a un nouveau mouvement, et effectivement, qui est là où c'est très inquiétant, c'est qu'il a été quasiment déclenché par l'intervention du président de la République lui-même, et notamment des jeunes qui sont dans une contestation qui n'est plus celle de la crise des retraites, mais qui est autre chose, qui est une contestation qui traduit, à mon sens, qui reflète une crise de la démocratie dans notre pays. Je ne parlerai pas de crise de régime, parce que je pense que les institutions en elles-mêmes de la Ve République ne sont pas menacées, mais en tout cas, pour ces jeunes-là, il y a effectivement tout simplement, un tropisme révolutionnaire, quelque chose qui relève d'une pré-révolution, d'une situation pré-révolutionnaire. Ils estiment que Emmanuel Macron, c'est un monarque républicain et qu'il faut couper la tête du roi. D'où cette violence extrême, cette radicalité, parce que ça n'est plus cette réforme-là qui est en cause. C'est bien autre chose, c'est le système, le régime lui-même. Donc on a des... notamment une population de jeunes, d'étudiants qui sont très, très, très mobilisés. Alors, ce sont des étudiants qui ont des idées qui sont extrêmes.
Qui sont un peu politisées.
Gauche, qui sont politisées, c'est sûr. Et puis, il y a toujours les black blocs. Et puis, il y a une forme de gilet jaunisation du mouvement aussi, parce qu'on voit quand même dans des villes moyennes des manifestations qui se sont quand même multipliées. Donc, il y a une sorte d'amalgame avec, en même temps, ceux qui reste du mouvement social traditionnel aussi.
On va y revenir, parce qu'ils étaient toujours là. On va y revenir.
Donc on a quelque chose, c'est une sorte de kaléidoscope de mouvements divers, de sociologies différentes. Et je le répète, ce qui est essentiel, c'est que les mots d'ordre, les objectifs, sont plus du tout les mêmes qu'il y a encore une semaine.
Christelle Craplay, c'est vrai que jusqu'à présent, on manifestait contre la réforme des retraites. On a l'impression maintenant que, Jean Garrigue le disait à l'instant, cette gilet jaunisation du mouvement a pour ressort aussi une détestation d'Emmanuel Macron, voire des institutions et de l'autoritarisme que véhicule le 49-3.
Oui, c'est un peu tout ça qui s'exprime. Nous, on voyait dans nos enquêtes un fort soutien au mouvement social. Ce soutien, il est probablement toujours là. On le verra dans les enquêtes à venir.
Les deux tiers des Français soutiennent les blocages et les manifestations.
Tout à fait. Et nous aussi, on voyait dans nos enquêtes, quand on leur disait si ça doit se durcir, est-ce que vous l'approuvez ? Et ils nous disaient oui, dans leur très large majorité. En fait, ils ont le sentiment que finalement, quand on manifeste paisiblement, on n'obtient rien puisque le projet a été voté. Donc il y a quand même une forme probablement de compréhension à l'égard de la radicalisation du mouvement, même si ça peut aussi générer de l'inquiétude. Parce que quand on voit toutes ces images, on peut supposer qu'une partie des Français s'inquiète un peu de la suite. Qu'est-ce que ça va donner? Et du coup, est-ce qu'ils vont continuer à soutenir le mouvement? Mais pour l'instant, c'est le cas.
Et alors, vous avez raison. Jusqu'où les Français toléreront-ils ce genre d'image? Je vous propose, parce que cette nuit, il y a eu la mairie de Bordeaux qui a été violemment caillassée, même incendiée. Et on va entendre Pierre Urmic, le maire écolo de Bordeaux, donc qui vient quand même du monde des activistes. Eh bien, écoutez, il a l'air un peu sonné ce matin quand il voit son bâtiment. Regardez ces images donc, sur la nuit. C'est un sujet de Nathan Rama-Hérisson.
Une image, symbole des débordements des manifestations en France. L'entrée de l'hôtel de ville de Bordeaux, incendiée pendant plus d'un quart d'heure cette nuit. Au total, 7 personnes ont été interpellées pour incendie volontaire.
Je suis particulièrement choqué, attristé et indigné qu'on s'en prenne à la maison des Bordelais. Je ne vois pas quel est le sens d'un tel acte criminel et je suis naturellement tout à fait choqué.
À Toulouse, certaines rues du centre-ville se sont également retrouvées en feu. Chez les habitants, les avis sont partagés.
Ça se passe par la violence. Ça vous fait des blessés. Regardez là, on a du feu comme ça. Franchement, ça nous donne une mauvaise image de nous, les Français.
Une mauvaise image de nous, les Français. Un mot quand même, Jeff Wittenberg. La semaine dernière, on pointait du doigt le fait que Anne Hidalgo, malgré les poubelles, soutenait le mouvement. Là, on a vu Pierre Urmic, qui est
écologiste, vous l'avez rappelé,
qui lui dit c'est n'importe quoi.
On ne lui a pas encore brûlé, et on souhaite que ça n'arrive pas, sa mairie, Anne Hidalgo. Pierre Urmic, il est obligé de constater qu'aujourd'hui, comme tout le monde, il y a une situation qui devient incontrôlable. On y revient. On a vu dans le premier reportage des policiers qui sont en train de reculer face à la violence, pas forcément la masse, mais la violence des manifestants, chaque jour, finalement, fait monter la tension, fait monter la pression. Et ce qui est quand même très notable, c'est que pour l'instant, malgré ce contexte inflammable au sens propre et figuré, rien ne bouge. Le gouvernement, et je n'aime pas employer cette expression parce que ce n'est pas à ce sujet qu'il l'avait employé, mais reste droit dans ses bottes, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Or, ça va pouvoir durer combien de temps ? L'argument notamment d'Emmanuel Macron et de ses amis, c'est de dire qu'on ne doit pas céder sous la violence. C'est que justement, pendant des semaines, il y a eu des manifestations pacifiques et massives et qu'on n'a pas bougé, et que la reculer parce que il y a de la violence, ce serait un aveu non seulement de faiblesse, mais ce serait contre-productif,
ça serait y compris donner raison pour les syndicats. Aux violents.
Ça, c'est la théorie. Et puis, il y a la pratique. Au moment des Gilets jaunes, finalement, le gouvernement avait reculé. Au moment de Notre-Dame-des-Landes, finalement, le gouvernement avait reculé. Donc, on peut avoir des principes, mais jusqu'où ils vont, ces principes? Si la violence continue à ce stade exponentiel, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, avec des exactions de plus en plus rudes des blessés, peut-être qu'on peut se poser la question du maintien de cette ligne inflexible.
Christelle Craplet, hier, Laurent Berger, comme s'il avait un mauvais pressentiment, avant le début de la manifestation, avait dit « jusqu'au bout, il va falloir garder l'opinion, c'est notre pépite ». Est-ce que ces images sont de nature à faire... elle a fait basculer Pierre Hermic. Est-ce que l'opinion, le maire de Bordeaux, est-ce que l'opinion pourrait changer le soutien populaire pourrait s'émousser?
Alors, le soutien populaire au mouvement social pourrait s'émousser, mais on peut aussi considérer que les Français vont se dire bah, « c'est Emmanuel Macron qui a généré cette situation ». Et donc, finalement, ça ne va pas se retourner vers une approbation et se dire bah, « il faut que la réforme passe », mais plutôt, effectivement, comme vous le disiez, il faut qu'on arrête cette situation. C'est Emmanuel Macron qui est responsable, il doit maintenant faire face à cette situation. Mais effectivement, s'il venait à retirer quand même, enfin à retirer, en tout cas, à ne pas appliquer son texte, le message serait quand même désastreux parce qu'il y a eu des semaines et des semaines de manifestations pacifiques, on n'obtient rien. Absolument. Finalement, si c'est par la violence qu'il faut obtenir quelque chose, pour la suite du quinquennat, pour la suite des mouvements sociaux, ce serait quand même assez inquiétant.
Il n'y a que des mauvaises solutions à ce stade aujourd'hui.
Jean Garrigue, David Lebar, le responsable syndicaliste de la police, dit « Le risque, c'est celui d'une bavure à la Malik Houssekine. Cela pourrait tout faire basculer. » Malik Houssekine, 86, réforme de Vaquet.
Exactement, les voltigeurs. Et on voit réapparaître aujourd'hui des pelotons. Alors ça s'appelle les
Braves M, la brigade M. de répression anti-violence motorisée.
Mais inévitablement, le traumatisme de 1986 réapparaît dans toutes les mémoires. Donc ce rajeunissement du mouvement social, là, l'éruption des jeunes, tout ça donne à penser que cette radicalisation là, elle est présente. Et effectivement, le gros problème, c'est que celui qui est considéré comme le responsable, qui a perdu la bataille de la communication, c'est Emmanuel Macron. Et l'allocution, l'interview qu'il a faite il y a deux jours, là, elle a été vraiment une sorte de déclencheur. Bon, je ne vais pas redire ce qu'a dit M. Martinez, c'est très clair. Donc ça veut dire que les solutions qui vont être proposées par Emmanuel Macron, quelles qu'elles soient, c'est ce qu'on dit tous, sont des mauvaises solutions. La moins mauvaise, peut-être pour lui, aurait été que le Conseil constitutionnel invalide sa loi.
C'est encore possible. Est-ce que ça pourrait être une porte de sortie que dans 10 jours, Laurent Fabius dit « votre loi, elle n'est pas constitutionnelle, à la poubelle ».
Moi, si j'étais Emmanuel Macron, j'appellerais Laurent Fabius, je négocierais avec lui pour qu'on en vienne à cette solution qui permettrait de dire bah, « vous voyez, le Conseil constitutionnel a refusé de valider, donc on peut faire autre chose ».
On n'a pas cédé, c'est que...
Il faut qu'il y ait un motif juridique.
Alors il y a l'idée de que le véhicule législatif employé ne correspond pas à la sincérité, à la clarté nécessaire pour un tel projet de loi. Bon, moi je pense que ce serait un petit peu tiré par les cheveux. Il y a une autre solution, mais on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est celle de 2006, qui est celle que Jacques Chirac l'employait en 2006 pour le CPE. C'est-à-dire que on promulgue une loi, elle a été validée par le Conseil constitutionnel, mais on ne met pas en œuvre les décrets d'application. Et c'est-à-dire qu'on suspend d'une certaine manière l'application de cette loi.
Parce que finalement, le CPE n'est jamais revenu.
Et voilà.
C'est une suspension qui vaut
entièrement. Mais à mes yeux, mais bon, c'est une sorte d'hypothèse, comme ça, suspendre cette loi et insérer cette suspension dans ce grand débat qu'on nous promet pour le nouveau programme gouvernemental, ça pourrait être une sortie de crise. Mais j'y crois pas du tout, parce que tout ça est subordonné à la légitimité d'Emmanuel Macron, et il n'a plus de légitimité.
Jeff Wittenberg, comment expliquer que les jeunes qui ne se sentaient pas concernés par ce mouvement, parce qu'on leur parlait de retraite, et c'est vrai que quand on a 17 ans, on n'est pas sérieux, comme disait Rimbaud. Et là, pour le coup, le 49-3 les a invités dans le mouvement.
Alors, c'est un professeur de droit constitutionnel qui disait peut-être sur votre plateau ou sur un autre plateau, déjà, il faudrait demander... Si on faisait un sondage dans la rue, y compris dans les manifestations, pour demander ce qu'est le 49-3, il n'est pas sûr que tout le monde pourrait expliquer concrètement en quoi ce vote, en quoi plutôt cette disposition constitutionnelle est antidémocratique. En fait, il y a quand même un vote, mais c'est devenu un mot magique, si j'ose dire, de magie noire, qui fait que le mot 49-3 a cristallisé l'impression finalement que Emmanuel Macron, parce que les choses reviennent toujours à lui, est un président autocrate, ne respecte pas la démocratie, fonce, n'entend rien, est déconnecté. Et voilà. Et donc cette espèce de chiffon rouge a mis les jeunes dans la rue, certains jeunes, parce qu'il faut encore une fois le rappeler, et on le disait tout à l'heure en début d'émission, il y a pour une grande partie de ces personnes qui descendent, un peu l'extrême gauche, des gens qui sont politisés, beaucoup d'étudiants, des urbains. Ce n'est pas toute la jeunesse de France, parce qu'il y a aussi des jeunes aujourd'hui qui veulent de l'ordre, qui votent pour Madame Le Pen, qui trouvent que ce qui se passe est désastreux. Donc il ne faut pas généraliser. Mais ce qui est vrai, c'est que ce simple mot, cette simple appellation de 49-3 a rajouté finalement. Mais certains disent aussi que si la loi était passée par un vote traditionnel, c'est la colère ne serait pas retombée. La colère ne serait pas retombée pour autant.
Ah, la colère
serait quand même forte. Peut-être pas aussi forte, mais...
Elle est très forte, la colère. Et donc elle serait quand même probable... là. Ça l'a attisée, sans doute, mais elle aurait existé.
Elle aurait existé.
Et ce que vous disiez sur les jeunes, alors c'est vrai, c'est pas tous les jeunes, mais nous, dans nos enquêtes, on a quand même vu au départ, effectivement, une forme d'indifférence. Et c'est ce qu'on voit d'ailleurs en général quand on fait des enquêtes sur la retraite, c'est loin, ils n'y pensent pas. Et petit à petit, quand même, ils se sont de plus en plus opposés. Et aujourd'hui, dans nos dernières enquêtes, on a quand même 80% des jeunes qui sont contre la réforme, qui approuvent le mouvement social, et c'est beaucoup plus que la moyenne. Donc ça a quand même gagné une grande partie de la jeunesse. Toute la jeunesse n'est pas dans la rue, mais ils sont largement opposés.
Est-ce que l'électorat âgé qui a voté massivement pour Emmanuel Macron serait de nature, justement face à la chienlit ou à la bordélisation du pays, dire maintenant ça suffit, il faut que Et est-ce que Emmanuel Macron, cyniquement, peut d'ailleurs miser là-dessus ?
Moi, je pense que c'est le pari qu'il fait. Il s'adresse, quand il fait son interview, il sait que voilà, ça va peut-être attiser la colère, mais il s'adresse à sa base. Je suis toujours là, je fais la réforme, je fais le pari de l'impopularité. Il essaie aussi d'appuyer sur ses très forts. Quand on analyse son image, il est de tout temps, j'ai envie de dire presque, perçu comme éloigné des préoccupations des Français, pas proche des gens. En revanche, il était perçu comme capable de prendre les décisions qui s'imposent, avoir l'étoffe d'un président. Et c'est là-dessus qu'il essaie de jouer, essentiellement en parlant à sa base. Après, c'est un pari quand même risqué, puisque à sa base, elle est limitée, et puis la majorité des gens...
Je n'ai pas réussi, je parle sous votre contrôle, cet exercice, y compris face à son
électorat. Mais 3/4 des Français l'ont jugé pas convaincant, mercredi.
Et puis, même sur ces items forts, comme le volontarisme, l'énergie, etc., il a perdu dans les sondages, vous le savez mieux que moi, il a perdu, y compris dans cette idée-là, qu'il était un président qui... actif, qui pouvait faire, qui pouvait réformer. Je ne parle même pas, alors là, de son image, de l'image initiale de 2017, où il nous annonçait une révolution, et où finalement, ça se traduit par cette réformette, finalement, qui est celle de la crise des retraites, qui est empruntée au répertoire des Républicains, et pas du tout à ses intentions originelles.
À réforme à point.
Donc, mais vous avez raison, il s'est recroquevillé sur son électorat de base. Mais c'est un calcul qui est aujourd'hui, qui ne fonctionne plus. On le voit bien, puisque l'opinion publique continue à être massivement contre lui. Donc là, franchement, on est dans une impasse.
Convaincant à 75%, soutient les blocages à 67%.
Et il y a une dimension qu'il ne faut pas négliger, sur laquelle insistent beaucoup les macronistes et Gérald Darmanin en premier lieu, fonction oblige, c'est le ras-le-bol des policiers. Il faut plus de 400 policiers blessés hier, je reviens à ce chiffre. C'est énorme.
Et David Lebas a rappelé hier des policiers qui d'ailleurs sont souvent opposés à cette réforme des retraites.
Qui ne sont pas, j'enfonce une porte ouverte, en général du bord d'Emmanuel Macron politiquement. Et on ne peut pas négliger, on ne peut pas écarter l'idée qu'eux aussi, à un moment donné, disent stop de devoir faire le service d'ordre, de devoir...
C'est à nous d'assumer la stratégie du pourrissement, ils disent.
Absolument, contrer un mouvement pour lequel peut-être il pourrait être de l'autre côté des barrières.
Alors justement, à partir de quel moment le gouvernement pourrait reculer? Vous parliez tout à l'heure, Jean Garrigue, du CPE 2006, la dernière fois que le gouvernement a reculé. Ben justement, on a retrouvé dans les archives de l'INA une manifestation contre le CPE. Nous étions le 28 mars. Et ben quelques jours plus tard, Jacques Chirac allait abandonner cette réforme. Donc, 28 mars. C'est l'une des dernières manifestations contre le CPE.
C'est la plus grosse manifestation depuis le début de la mobilisation contre le CPE. À Paris, ils étaient 700 000 personnes selon la CGT, 92 000 selon la police. En tête, les étudiants des universités parisiennes.
On aimerait que De Villepin puisse quand même faire écouter la voix des étudiants, des salariés.
Il dit la rue ne gouverne pas, mais il refuse de prendre en compte l'expression démocratique de la société. Tant qu'il sera dans cette posture-là, la mobilisation continuera à prendre de l'ampleur.
La cible des manifestants, le contrat première embauche bien sûr, mais aussi le Premier ministre. Celui qui ne veut pas nous écouter selon les manifestants. Aux côtés des jeunes venus en force, les représentants des principaux partis de gauche et des salariés essentiellement du secteur public.
La différence, c'est qu'à l'époque, c'était Villepin qui était la cible des manifestants. Oui. Donc finalement, c'était presque plus facile pour Jacques Chirac de dire « bon, bah, oui. on fait porter le chapeau à Villepin, moi, c'est pas ma réforme ».
Alors, si on écoute bien Emmanuel Macron, il n'aimerait non pas faire porter le chapeau, mais qu'on regarde un petit peu ce que fait Elisabeth Borne, et il lui a donné un mandat, il lui a demandé d'élargir la majorité, il lui a demandé de trouver une nouvelle méthode. Très bien, sauf que les mannequins, malheureusement, à l'effigie que l'on brûle dans les manifestations, ils ont la tête d'Emmanuel Macron, les slogans très violents que l'on
entend. Tout remonte à Macron.
Tout remonte à Macron, beaucoup plus que tout remontait à Jacques Chirac à l'époque du CPE. Et puis, là encore, les choses ne sont pas tout à fait comparables dans la mesure où on est dans un début de mandat, où on est avec un président réélu qui a fait de cette réforme sa pierre angulaire. Donc il y a une véritable impasse et je pense, c'est un peu passé inaperçu dans l'interview d'avant-hier, que malgré tout il y a quand même une petite ouverture que tente Emmanuel Macron lorsqu'il explique qu'il n'y a pas de compromis, enfin que les syndicats ne lui ont pas proposé de compromis, il dit dans la même phrase, ça aurait pu être 63 ans et demi, c'est la première fois qu'on entend ça. Donc est-ce que quelque part il n'y a pas l'idée qu'une porte pourrait s'entrouvrir parce qu'il voit bien, il est conscient et son entourage est conscient qu'aujourd'hui, le blocage est total.
Christelle Craplet, est-ce que les Français manifestent leur mauvaise humeur ou est-ce qu'ils manifestent vraiment en se disant « on va la faire tomber cette loi » ou est-ce qu'il y a de la résignation en disant « il ne bougera pas
». On a posé la question pendant tout le suivi du mouvement. Ils étaient à la fois très massivement pour la mobilisation sociale contre la réforme, mais presque les trois quarts d'entre eux pensaient que ça allait de toute manière passer. Ouais. Il y a toujours eu ce double effet, c'est-à-dire on est contre, on manifeste notre opposition, mais au fond de nous, comme s'ils pensaient au fond de nous, on pense que ça passera quoi qu'il arrive. Et ça, c'est à la fois peut-être ce sur quoi compte Emmanuel Macron, en se disant finalement, est-ce que dans quelques mois, on n'en parlera plus, la réforme est passée, c'est ce qui s'est passé en 2010 peut-être, mais est-ce que ça ne va pas générer quand même un immense sentiment de frustration, de rancœur, d'amertume, qui dans le contexte actuel, on sait que les Français déjà sont très opposés aux institutions, ont un rapport quand même à leurs élus, aux politiques très dégradés, est-ce que ça ne va pas l'accentuer, ça ne va pas provoquer une forte hausse de l'abstention? C'est le risque quand même.
En tous les cas, ces violences ne doivent pas masquer le fait qu'il y a, plus d'un million de Français qui, dans leur écrasante majorité, ont manifesté pacifiquement dans les rues contre cette réforme des retraites, mais pas que. Je vous propose justement d'aller dans les cortèges à Pithiviers, une ville de 9000 habitants dans le centre Val-de-Loire. Vous allez voir, on ne parlait pas que de retraite. Sujet de Gaspard de Florival et Francis Simois.
Muchas gracias.
Récolter quelques euros pour aider les grévistes et mobiliser une neuvième fois contre la réforme des retraites.
Si on est 20 millions à s'arrêter le même jour, on n'aura plus besoin de faire ça. Moi, je me bats pour tes enfants, pour mes enfants, pour mes parents, pour mes grands-parents.
Bloquer à Paris quelque chose qui fait chier les présidents. Là, tu fais chier qui?
Dans le Loiret, à quelques kilomètres de Pithiviers, opération barrage filtrant des éboueurs, en grève depuis l'utilisation du 49-3. Au cœur de la colère, la réforme des retraites, mais aussi d'autres revendications.
L'électricité monte, le gasoil, nos caddies. On va faire des caddies. On a des familles qui aujourd'hui sont obligées de se rationner.
Le rejet de la réforme mobilise à Pithiviers depuis janvier. 9000 habitants, 800 dans la rue ce matin. Certains pour la première fois, comme cette mère de famille aide-soignante, payée au SMIC.
C'est une accumulation de tout. On travaille. Enfin, moi, j'arrive à un point où je me dis, bah, je me fais plus plaisir en fait. Je travaille, je paye les factures, je nourris mes enfants. Enfin, j'arrive plus à me faire plaisir, quoi. C'est plus possible. Au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible. C'est vraiment plus possible. Avec le salaire qu'on gagne, on n'y arrive plus.
Sur le parcours de la manifestation, l'hôpital de Pithiviers. La défense des services publics, autre cheval de bataille des manifestants.
On continuera le combat.
Ces infirmières ont fait le choix de travailler aujourd'hui, mais elles soutiennent les manifestants.
On se permet même pas de demander notre journée pour faire grève, parce que de toute façon, il manque déjà du personnel. Donc voilà.
Travailler par conscience professionnelle.
Voilà, exactement.
Dans le cortège, la plupart déplorent une rupture avec les représentants politiques.
On n'est pas entendu du tout. On sent qu'il y a vraiment une déconnexion entre ce qui se passe réellement en France et ce que le Parlement et surtout le Président veulent appliquer, quoi.
Dans le Loiret, selon la préfecture, environ 11 000 personnes se sont mobilisées contre la réforme des retraites.
Jean-Garic, on s'aperçoit que le ressentiment, il est nourri par bien plus de causes. Hein, les salaires, le sentiment d'abandon, les services publics.
Oui, je crois qu'il y a vraiment... Mais d'ailleurs, depuis le début du mouvement, hein, même si les mots d'ordre des syndicats portaient exclusivement sur la réforme des retraites, mais on voyait bien que dans le ressentiment collectif, il y avait tout autre chose. Il y avait l'impression de ne pas être entendu par le pouvoir. Et cette déconnexion, le mot était employé par un des monsieur qui manifestait là, cette déconnexion entre les citoyens et ceux qui détiennent les pouvoirs. Il a cité Emmanuel Macron, mais il a parlé aussi de l'Assemblée nationale, enfin du Parlement en général. Il y a une vraie déconnexion. Et cette résignation dont parle par rapport au passage en force de la réforme traduit aussi cette déconnexion, c'est-à-dire qu'on ne fait plus du tout confiance à ceux qui détiennent les pouvoirs, quels qu'ils soient les pouvoirs institutionnels, pour résoudre les problèmes des citoyens. Et ça s'appelle une crise de la démocratie. Ça s'appelle une crise, une contestation des partis, des institutions. Les syndicats se sont, à la faveur de cette crise, à mon sens, un petit peu réévalués, revalorisés.
Mais concrètement, ils n'ont rien obtenu. Mais
ils n'ont rien obtenu aussi. Ça risque aussi à terme de germer.
Derrière, l'a dit la dame, hein, moi ça me coûte cher de faire grève.
Exactement. Donc là, on est vraiment dans une, je le répète, hein, dans une crise démocratique profonde. Et c'est ça que traduit aussi la radicalisation du mouvement. C'est que je le répète, derrière la crise des retraites, derrière cet enjeu-là, il y a la manière dont fonctionne notre système politique, la manière dont les élus ne nous écoutent pas. Et Emmanuel Macron, avec sa présidence très verticale, il est un peu l'archétype de ça, le symbole de tout ça. Voilà ce qui se passe aujourd'hui.
Jean Wittenberg.
C'est un vrai paradoxe qui se passe, car depuis la réélection d'Emmanuel Macron, la politique sur le pouvoir d'achat a été un petit peu jugée, en tout cas, et mise en avant de façon prioritaire. Il y a eu une loi sur le pouvoir d'achat l'été dernier, il y a eu des chèques énergie, il y a eu des chèques alimentation. Or, on vient de l'entendre dans cette manifestation à Pithiviers, tout ça n'imprime pas. Le pays, la France, et vous le savez, est l'un des pays qui amortit le plus possible la hausse du prix de l'énergie en Europe.
Le bouclier tarifaire. L'échec énergie, etc.
L'échec énergie, vous savez qu'en Angleterre, par exemple, certaines personnes ne peuvent pas se chauffer. C'est sans doute arrivé en France, mais de façon quand même moins générale. Malgré cette politique qui est volontariste, qui coûte de l'argent, le quoi qu'il en coûte n'est pas si loin que ça, tout cela est inaudible, est devenu, encore une fois, absolument non perçu par les populations qui n'arrivent pas à remplir leur caddie. Enfin, on l'entendait dans ce reportage. Donc il y a un vrai... Il y a plus qu'une impasse. Il y a un casse-tête où il n'y a pas de solution aujourd'hui pour le gouvernement, car ni le discours, ni les actes ne sont reçus par la population qui ne voit qu'un pouvoir froid, loin de ses préoccupations. Et sans doute que la communication du président y est pour quelque chose.
Loin de ces préoccupations, Christelle Craplet, quand on interroge les Français, quelles sont leurs préoccupations numéro un? Et d'ailleurs, est-ce que les retraites pour lesquelles nous nous battons depuis avec 9 journées de mobilisation, est-ce que les retraites apparaissent tout en haut des préoccupations des Français?
Non, et c'était même pendant la campagne présidentielle où il y avait ce projet qui était débattu, on avait fait un peu la comparaison et ça arrivait, alors j'ai oublié, mais 7e, 8e position, très très loin derrière le principal sujet qui préoccupe les Français, le pouvoir d'achat. Et on voyait bien déjà une forme de déconnexion entre la thématique qui était mise en avant pendant la campagne et leurs vraies préoccupations. Et aujourd'hui, effectivement, ce qui inquiète les Français, c'est comment ils peuvent faire face à l'inflation. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'aides qui sont faites. Mais
il n'en a pas parlé d'ailleurs. Le mot inflation n'a pas été prononcé mercredi par Emmanuel Macron.
Il était vraiment sur le sujet retraite. Et je pense qu'il voulait concentrer son intervention sur cette thématique-là. Mais dans la contestation des Français, il y a probablement bien plus que le seul rejet de la réforme qui est réelle, mais il y a derrière tout le contexte d'inflation, de difficultés et de rapport au travail aussi. C'est ce que disait la personne qui était interrogée. Finalement, elle travaille et son salaire ne suffit pas. Et derrière, je pense qu'il y a beaucoup de ressentiments, notamment chez les actifs, et la perception que malgré un salaire, malgré le fait qu'on travaille, on peut plus se faire plaisir, comme elle disait, on s'en sort plus.
Inflation, rapport au travail, ne plus pouvoir se faire plaisir alors qu'on travaille. Ce sont des stigmates que l'on retrouve pas seulement en France, mais que l'on retrouve chez nos voisins européens. Et c'est peut-être ce qui explique que le regard de nos voisins, d'habitude qui est assez moqueur sur ces grèves françaises, cette fois-ci, il est plein d'empathie. Regardez comment en Belgique, on voit le mouvement en France. C'est un sujet d'Ambroise Boulais et Léna Soudre.
Ici en Belgique, l'âge de départ à la retraite, c'est 65 ans. Qui passera à 67 en 2030. Alors, quand les Français font de la résistance, nos voisins applaudissent.
Je crois qu'ils doivent rien lâcher, parce que nous, on a lâché et maintenant, on a la pension à 67 ans.
Ce journaliste belge a couvert le conflit social français il y a quelques jours à Valenciennes.
En voyant ce qui se passe en France, on se demande si nous, on est contestateurs, peut-être que la France, c'est carrément révolutionnaire. Quoi. Ce qui se passe pour le moment, ça dure depuis plusieurs semaines. Et je pense que c'est aussi pour ça que ça intéresse les Belges et qu'on médiatise à ce point cette réforme.
Une réforme française, un embrasement qui ravive la colère de Kevin. Si la loi a presque 10 ans en Belgique, pour ce syndicaliste, c'est aussi le moment de se mobiliser. Comme sur ces images, il y a quelques semaines, aux côtés de ses collègues sapeurs-pompiers.
Là, c'est plus une question d'être français, d'être belge, d'être pompier, d'être policier, d'être infirmier, etc. C'est juste pour notre bien-être plus tard, quoi. Tout le monde a droit à une pension correcte et décente, quoi.
Le bouillonnement français va-t-il traverser la frontière? Le syndicaliste nous assure que des actions sont déjà prévues dans le pays.
J'avais inversé, c'est un argument qui n'a absolument pas imprimé, ça, le fait que tous nos voisins travaillent jusqu'à 65 ou 67.
À part la Suède, la Suède qui est à 62 ans comme nous, c'est un argument qui n'a pas imprimé, mais qui a aussi été répété par Emmanuel Macron, ses ministres et la Première ministre. Effectivement, la France est le pays d'Europe occidentale.
Accessoirement, la Sécurité sociale vient de publier les comptes 2022. La branche retraite, vous avez vu, 3,8 milliards de déficit, et c'est 800 millions de plus que ce qui était prévu.
Ça donne de l'eau au moulin, aux partisans de la réforme. On a vu ce reportage en Belgique. Les Belges sont assez proches de nous. Finalement, on partage en partie la même langue. C'est un pays qui a sans doute une fibre proche de la nôtre. Lorsque on regarde le mouvement en Allemagne, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui se passe. La réforme là-bas est passée, non pas comme une lettre à la poste, mais de fait, on travaille plus longtemps. Les salaires sont meilleurs. Et le dialogue social peut exister. Le problème français, il est surtout là aujourd'hui, c'est qu'on n'est que dans la confrontation, que dans le conflit. Et les images des manifestations et des incendies et de toute cette violence, elles font florès dans les pays qui ne nous aiment pas. J'entendais ce matin un reportage en Russie où les télévisions d'État diffusent en boucle ce qui se passe à Paris, en expliquant la grève des éboueurs, en expliquant les feux, en expliquant que finalement la démocratie, on critique le régime russe lorsqu'il s'en prend à ses opposants, mais que Emmanuel Macron ne fait pas mieux, il fait même pire, dit la propagande russe. Donc tout ça a aussi un effet très dévastateur pour l'image du pays chez ses voisins.
Même si, Jean-Garrigue, parce qu'on disait que le ressentiment était plus large que sur la question des retraites, lundi il y a une grève en Allemagne. D'ailleurs, les Allemands disent on commence à devenir comme des Français un petit peu parce qu'il y a une grève pour les salaires. Le Royaume-Uni a été émaillé de grève. On a l'impression que c'est un petit peu tout le modèle occidentale, d'Europe de l'Ouest, qui est percutée par cette inflation qui pousse à l'exaspération une classe moyenne qui se sent déclassée.
Ça, ce sont des phénomènes, j'allais dire, historiques, hein, que dans des périodes de crise, c'est plus qu'une crise économique, crise sociale, crise d'identité de toutes ces sociétés-là, avec ce modèle illibéral qui plane, ce modèle russe qui plane sur nos sociétés démocratiques libérales, il y a un rejet comme ça, et puis des mouvements sociaux qui se radicalisent, qui se durcissent, comme dans les années 30, par exemple. Alors, je dis pas du tout qu'on est dans la même situation, mais on voit bien que ces phénomènes-là ne se réduisent pas à un seul pays. Ce qui se passe en France, c'est que la nature de nos institutions et la nature du pouvoir présidentiel et puis notre nature révolutionnaire aussi. Ah oui. C'est-à-dire cette espèce de dialectique
peuple versus le roi.
Le fait que tout est beaucoup plus radicalisé, tout est beaucoup plus fort que dans d'autres pays. Bon, en Italie aussi, quelquefois, les mouvements sociaux sont assez radicaux parce qu'ils ont une culture aussi là, très, très révolutionnaire de leur syndicat. Mais incontestablement, la caractéristique française, c'est que on est dans un combat front contre front, le monarque républicain face à son peuple. On voit bien que c'est d'ailleurs l'idée qui domine au fond. Hein, vous disiez les effigies brûlées, etc. Alors, est-ce qu'il va y avoir un printemps des peuples, c'est-à-dire une sorte de contamination du mouvement social français sur le reste de l'Europe? Moi, j'en doute un tout petit peu, parce que, comme vous l'avez dit, les réformes des retraites, là-bas, elles sont quand même passées beaucoup plus
facilement. Il y a quand même une particularité française, c'est que cette contestation, elle se joue sur une réforme des retraites qui a été acceptée à peu près partout.
En tous les cas, c'est dans ce contexte que va arriver après-demain, on parlait de souverain, dimanche soir, le roi Charles III, un dîner est prévu au château de Versailles. Évidemment, en Grande-Bretagne, on observe avec inquiétude ce qui se passe en France. Oui, alors, c'est le sujet de Ambroise Boulès et Léna Soudra.
Que pense Charles III de la situation en France à 3 jours de sa première visite d'État? Si la monarchie, fidèle à son habitude, ne laisse rien filtrer, les médias britanniques ne cachent pas leurs préoccupations.
Il y a des inquiétudes sur la sécurité du roi avant sa visite. Cette visite n'est pas bien vue alors que les rues de Paris s'enflamment depuis la semaine dernière.
Rue jonchée d'ordures, manifestations. Le climat social contraste avec les ors de la Galerie des Glaces de Versailles, qui devrait accueillir le roi et 200 convives pour un dîner d'État lundi. Une pression supplémentaire sur l'Élysée, estime l'expert royal Richard Fitzwilliams.
Je pense que ce serait désastreux pour l'image du président Macron si un incident se produisait. Mais évidemment, tout sera fait pour l'éviter.
Christelle Craplet, un confident du chef de l'État ce matin dans Le Parisien. Politiquement et diplomatiquement, ce serait dévastateur pour l'image de la France à l'étranger, même un camouflet s'il devait y avoir des incidents.
Oui, effectivement, ce serait sans doute perçu très négativement. Ça renforcerait l'image négative que peuvent avoir certains pays à notre égard. Et surtout, ça donnerait le sentiment que non seulement Emmanuel Macron ne maîtrise pas l'interne, mais même en externe, quand il reçoit une personnalité étrangère, ça se passe mal. Et puis, le pire, entre guillemets, c'est quand même le symbole, effectivement, dans ce contexte social éruptif, d'avoir une rencontre avec un dîner au château de Versailles avec le symbole royal derrière. C'est sûr qu'en termes de symbole dans le conflit social, ce serait assez dramatique. Donc, et en interne en externe auprès des autres pays, ça paraît compliqué.
Enfin, Charles III doit regretter de nous avoir fait l'honneur de sa première visite à l'étranger, non? Parce que ça, pour lui aussi, il joue gros, là. C'est sa première visite en tant que roi. Paf, il va se retrouver une poubelle sur la tête.
Vous avez résumé un petit peu la situation. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux ni des monarques, mais quelque chose me dit qu'il y aura peut-être une adaptation du programme et que, comme vous l'avez souligné, ce dîner à Versailles, alors que Versailles, c'est le symbole absolu de la royauté, de la monarchie en France, au moment où on entend, où on lit, par exemple, à la Bastille, on est en pleine histoire, Monsieur Garrigue, mort au roi. C'est écrit, hein, ça a été l'un des slogans que l'on a pu voir. Ce serait dévastateur. Et comme on le disait tout à l'heure pour un autre sujet, là encore, il n'y a que des mauvaises solutions. Car si le voyage se passe bien, entre guillemets, on dira pendant ce temps, les rois parlent entre eux. Si le voyage se passe mal, ce sera une catastrophe. Et s'il est annulé, c'est aussi un camouflet par la France. Parce qu'on peut imaginer que, suite à ce qu'on vient d'entendre, notamment dans les médias britanniques, le Buckingham Palace se dise « bon, c'est trop risqué, tant pis, on viendra une autre fois, ce sera fait de façon très diplomatique, mais voilà ». Donc on a là encore trois scénarios qui ne sont pas du tout sympathiques pour le gouvernement dans les 48 heures qui viennent.
Jean Garrigue, est-ce que c'est symptomatique d'un président empêché qui ne peut plus rien faire? C'était Édouard Philippe dans le Figaro. L'option du statu quo au nom de l'apaisement est à proscrire. Mais est-ce qu'on n'a pas un président qui est condamné au chiracisme? C'est ce qu'on avait reproché à Jacques Chirac, ce que Nicolas Sarkozy avait reproché à Jacques Chirac pour son second mandat, l'immobilisme.
Mais vous avez raison. La différence a été soulignée, c'est que là, on est au début du deuxième mandat et que ce qui s'est passé, par exemple, pour le CPE, c'était à la fin du mandat de Jacques Chirac, et qu'elle avait assumé son image, enfin, l'image que Nicolas Sarkozy
le roi fainéant,
aimablement attribué de roi fainéant, et qui était quelqu'un en fin de mandat et fin de carrière politique. Tandis qu'Emmanuel Macron, il peut aspirer à quelque chose d'autre. On parle d'une présidence de la Commission européenne, enfin bon, que sais-je, ou de l'Union européenne. Donc il y a quand même, les données sont quand même très, très différentes.
Son image de réformateur en a pris un coup, même sur la scène européenne. Et là, il était embarrassé, vous imaginez, hier à Bruxelles.
J'imagine que, ne serait-ce que cette impasse-là, bien soulignée par Jeff Wittenberg, de la visite, qui, si elle se déroule, donne l'image d'une rencontre entre deux monarques qui ont oublié le peuple, et qui, si elle ne se déroule pas à Versailles, va donner l'image d'un recul de la puissance française, en quelque sorte, tout ça est négatif pour l'image européenne, l'image mondiale même d'Emmanuel Macron. Forcément, il a perdu des plumes dans ce... Lui qui était présenté, on se souvient, au début, en 2017, comme le nouveau leader de l'Europe, là, évidemment, avec cette crise sociale majeur, ce désaveu de grande partie de la population française, ce désaveu presque institutionnel de son rôle, forcément, à l'échelle européenne, ça décrédibilise son positionnement. Moi, je crois que, bon, même si je pense aussi qu'il y a du côté des observateurs étrangers une sorte de distance par rapport aux spécificités de la société française et de notre éruptivité chronique. Mais malgré tout, je pense que l'image d'Emmanuel Macron, elle est quand même très flétrie par tout ça.
Christelle Craplet, le capital politique, alors qu'on est à 11 mois après sa réélection, est abîmé.
Oui, et c'est vrai qu'on se demande comment va se passer la suite du quinquennat, parce qu'il reste quand même 4 ans. Si... pour une raison ou une autre, la réforme n'est pas appliquée. Je pense qu'il prendra encore plus, il y aura encore plus d'effets sur cette image d'incapacité à réformer, alors que c'était son point fort. Et je pense que quand même, ça l'empêchera. Et s'il fait passer quand même la réforme, il restera quand même ce fossé, cette amertume, cette rancœur. Donc, dans tous les cas, à l'instant T, c'est vrai qu'on voit pas très bien. En plus, il y a pas de majorité au Parlement. Enfin, ça paraît compliqué de voir comment les 4 années vont pouvoir se produire, même si on voit pas non plus d'alternative forte.
C'est sa force.
Il joue là-dessus parce que c'est vrai qu'il n'a pas de majorité, mais il n'a pas de majorité contre lui. Et si les gens sont très opposés, ils ne sont pas unis entre eux non plus. Donc, il joue là-dessus, mais c'est vrai que 4 ans dans ce climat, ça va être compliqué.
Mais c'est sa force, Jeff Wittenberg, c'est que si la dissolution... donnerait un paysage encore plus éclaté, encore moins gouvernable.
On ne peut pas. On a vu en 1997, avec la dissolution de Jacques Chirac, il peut y avoir des surprises. Mais il est vrai qu'à ce stade, je parle sous votre contrôle, on ne voit pas une majorité qui émergerait en cas de législative anticipée. Même le Rassemblement national, que l'on dit en pleine dynamique, en plein essor, ne me semble pas, avec notamment le vote des grandes villes, en mesure aujourd'hui de conquérir une majorité à l'Assemblée nationale. Donc on aurait une situation politique encore plus émiettée, encore plus bordélique, puisque désormais Gérald Darmanin emploie ce mot à loisir.
Donc, autoriser le mot, il est ministrable.
Voilà. Et donc, puisque vous parlez de Premier ministrable, est-ce que la solution serait de changer de Premier ministre?
Alors justement, je vous propose d'écouter la façon dont Emmanuel Macron a parlé d'Elisabeth Borne. Vous allez voir, il lui a un peu chargé. Enfin, notamment, il a expliqué que le 49-3, c'était sa décision. On écoute Emmanuel Macron parlant de sa première ministre.
Elle a décidé, après avoir examiné avec l'ensemble des forces politiques de la majorité et ses ministres pour cette réforme, le fait que, pour qu'elle passe et ne laisser aucune incertitude, Elle a souhaité engager la responsabilité de son gouvernement. Je souhaite que la Première ministre puisse bâtir justement cet élargissement de la majorité dans les semaines à venir et j'espère qu'elle y parviendra.
J'espère qu'elle y parviendra. On a vu soutien plus enthousiaste, Jeff Wittenberg. Non, qu'est-ce que vous
avez dit ? Il y a deux choses dans cet extrait que vous venez de diffuser. Elle a décidé, personne n'est dupe, elle a décidé parce que je le lui ai demandé, l'emploi du 49-3. On se souvient très bien que le jour où il a été décidé, il y avait sans arrêt des allers-retours entre Matignon, l'Élysée, les parlementaires, et tout s'est décidé dans le bureau d'Emmanuel Macron à l'Élysée, qui a constaté, après les différents pointages, que le risque d'une défaite à la régulière était trop grand pour ne pas engager le 49-3. Donc là, il y a une part, pas employer de grands mots, mais disons de défaussement ou de légère malhonnêteté intellectuelle de la part du président vis-à-vis de sa première ministre. Donc il lui demande finalement ce qu'il souhaite, c'est, on en revient à ce qu'on disait avec Villepin et Chirac, c'est ne pas être trop en première ligne, sauf que ça ne prend pas. Même s'il change de main de premier ministre, la colère ne s'éteindra pas instantanément, ni même, à mon avis, dans les jours qui suivent. Le responsable, dans cette Ve République, c'est lui et lui seul. La Première ministre n'est qu'une exécutante aux yeux de l'opinion.
Christelle Craplet, l'image d'Elisabeth Borne dans l'opinion, et est-ce qu'il y a des personnalités politiques dans la majorité qui jouissent d'une bonne image et qui pourraient faire office, on pense à Bruno Le Maire ou...
Alors, l'image d'Elisabeth Borne a incontestablement été écornée avec la situation, mais là où je vous rejoins, c'est que leurs courbes, elles sont quand même très proches. Et que voilà, elle est dans les pas du président, et les Français, c'est le président qu'ils jugeront responsable de la situation. Il y a quelques autres personnalités qui peuvent émerger. Effectivement, Bruno Le Maire, mais quand même globalement, on est dans un univers politique où il y a un fort rejet, quelle que soit la personnalité. Et puis s'il venait à changer de Premier ministre, quel symbole quand même. Parce que je sais bien que c'est une histoire de symbole, mais ça voudrait dire encore une fois que quand il y a une femme, on la laisse quelques mois.
On la laisse quelques mois,
elle fait le sale boulot, entre guillemets, et puis après, on les conduit. Je pense qu'en termes... Alors je ne sais pas à quel point les Français seraient sensibles à cet argument, parce que de toute manière, c'est le fond qu'ils contestent plus que la personne. Mais néanmoins, la symbolique me paraît quand même assez délicate.
Jean Garrigue, élargir la majorité, ça veut dire quoi ? Est-ce qu'on peut imaginer que certaines personnalités de droite, un peu écœurées d'ailleurs de voir que certains de leurs petits copains n'ont pas voté la réforme des retraites, pourraient dire, allez hop, moi je fais comme Bruno Le Maire, je vais en Macronie, ou non, on ne monte pas dans un bateau qui coule. On a dit au sujet de Rachida Dati, par exemple.
C'est ça, oui, on voit quelques voix qui sont prononcées un petit peu en faveur. Alors au début, on parlait même d'un contrat de gouvernement, c'était peut-être une solution qu'un Édouard Philippe aurait souhaité, etc. Mais ça me paraît, dans l'état de déliquescence et de dislocation des Républicains, qui sont le partenaire potentiel, à quelques ralliements individuels, mais qui se sont déjà produits. Des gens comme Christian Strozzi, Eric Woerth, etc. Ça a déjà eu lieu dans l'état actuel des Républicains et avec ce qui vient de se passer, ce refus de voter la loi et puis cette surprise d'avoir beaucoup plus de députés LR que prévu qui ont voté la motion de censure, ce que même Éric Ciotti n'avait pas prévu à ce point. Je pense que c'est très compliqué d'avoir de miser sur un élargissement de la majorité de ce côté-là. Or, c'est la seule possibilité, c'est la seule marge de manœuvre, parce qu'on n'imagine pas très bien aujourd'hui, dans la situation de conflictualité de la NUPES, des députés issus de cette mouvance-là se joindre au vote de... Alors, c'est toujours possible, peut-être sur des enjeux de protection de l'environnement, des choses comme ça, qu'on ne peut pas préjuger de l'avenir, mais... on ne voit pas de majorité possible pour les réformes d'Emmanuel Macron dans les mois qui viennent.
Jeff Wittenberg, c'est l'autre victime, les LR, de cette séquence. Ils ont perdu, ce ne sont pas des partenaires fiables. Et puis deux, c'est peut-être plus un parti de gouvernement. Parce qu'il renie
Une fois, être lucide, c'était déjà assez mal engagé. On rappelle qu'il y a un an, Valérie Pécresse...
4,75.
Voilà, donc la marque LR était quand même déjà relativement abîmée. Éric Ciotti, juste pour conclure, il a même déjà fermé la porte en disant qu'il ne servirait pas de roue de secours à un pouvoir qui va aussi mal. Donc cette idée d'une alliance partisane est écartée. Et que représente, comme vous l'avez dit, ce parti aujourd'hui écartelé, dont un tiers des députés ne vote pas dans le sens de la ligne du parti? LR, c'est une coquille vide. LR, c'est quelques barons, quelques notables, beaucoup d'élus locaux. Mais
le Sénat aussi. Ils ont
le Sénat, la présidence du Sénat, Mais en termes de poids politique pour faire basculer une décision, on voit que c'est très compliqué. Ce n'est pas un allié, en tout cas, qui pourra aider à ce stade. Mais...
Eh ben voilà, la suite, mardi prochain, il y a une nouvelle manifestation. Merci beaucoup de nous avoir aidés à décrypter cette 9e journée de manifestation contre la réforme des retraites. Je précise que France Télévisions se mobilise tout le week-end pour le site d'action. Vous pouvez évidemment faire des dons, un appel aux dons au 110 ou sur sidaction.org. Merci de votre fidélité, bon week-end et on se retrouve lundi pour un nouvel Info C'est Clair. Bon week-end à lundi.